Témoin du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Fait que chaque année, de nombreuses personnes marchent dans une seule direction, Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis 2013, les chemins de Compostelle attirent plus de 200 000 pèlerins chaque année, avec un taux de croissance de plus de 10% par an, sauf période Covid. Les pèlerins viennent essentiellement à pied et souvent de villes proches, demandant peu de jours de marche pour atteindre Santiago. Alors, quels sont les chemins qui mène à Compostelle? À l'occasion de l'année jubilaire 2021, votre radio chrétienne vous propose un regard actualisé sur ce pèlerinage millénaire. Dans ce second épisode se pose la question suivante: d'où est-ce que je vais partir? Du Puy-en-Velay? De la cathédrale de Paris? De l'église près de chez moi? Les personnes que j'ai interrogées sont toutes formelles sur cette question. Il faut partir depuis le pas de sa porte.
Je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus fort.
Anthony Grouard, président de l'association Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique.
Parce que quand on quitte chez soi, on met la clé dans la porte, dans la serrure de la porte, et on ferme la porte. On se retourne et on quitte ce qu'on a. Et c'est très symbolique de s'en aller de chez nous. On a un bon ami qui est pèlerin, qui nous a dit cette belle phrase quand il est parti de chez lui. Il a dit: c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Et puis on sort de chez soi, on franchit sa porte, on la referme, et puis on va remonter sa rue, on va remonter son quartier si on habite dans Nantes, et puis quitter la ville. Et c'est très très symbolique. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui marque le pèlerin, quoi. J'invite les gens, partez de chez vous, parce que c'est une dimension très forte.
Même si ça fait 1700 kilomètres?
Même si ça fait 1500 kilomètres de Nantes, oui, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Allons-y, quoi. Allons-y, parce que l'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire, quoi.
Daniel Rago, président de Web Compostella, association qui gère l'accueil francophone à Saint-Jacques-de-Compostelle, est lui aussi de cet avis.
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est celui que l'on prend soi-même, peu importe si on est sur l'un des chemins officiellement référencés ou pas. Il y a bien sûr les chemins traditionnels, mais chaque pèlerin, par définition, part de chez lui. Alors, il y en a qui partent de chez eux à pied, à cheval ou en bicyclette pour rejoindre l'une des têtes de pont. Il y en a d'autres qui font des chemins qui ne sont balisés nulle part, qui vont directement, j'allais dire, sur place. C'est important parce que dans nos rapports avec les évêques, un certain nombre d'évêques pensent ne pas être des évêques, comme on dit, des évêques du chemin. Et nous ne cessons de répéter que le pèlerin qui part de chez lui, c'est chez lui qu'il reviendra. Donc, même s'il n'est pas situé sur l'une des voies traditionnelles, quand il reviendra, c'est bel et bien avec sa paroisse ou avec son lieu de vie qu'il reprendra contact. À ce titre, donc, tous les évêques sont des évêques du chemin.
Daniel Rago, quand il n'est pas en train d'accueillir des pèlerins, aime à marcher sur les différents chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous raconte son expérience personnelle.
Moi, un petit matin de fin avril 2015, j'ai refermé la porte du jardin derrière moi. J'habite dans les Alpes-Maritimes. Et puis, ben, j'ai commencé le chemin. Et puis, je suis arrivé sur place alors que je n'avais aucun sens de l'orientation. Ça faisait peur à ma femme autant qu'à moi en se disant « il va se perdre ». Mais bon, Saint-Jacques est pour voir et les balisages sont bien faits.
Les chemins balisés pour rejoindre la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y en a beaucoup. On en parle dans un instant, mais avant, faisons le point sur le balisage, justement.
Bon nombre d'associations jacquaires qui font un travail remarquable balisent les chemins avec des petits signes qui représentent une coquille Saint-Jacques stylisée jaune sur fond bleu. En général, ce sont du carré d'environ 8 cm sur 8. Très souvent aussi, ça correspond aussi avec le balisage des chemins de randonnée. Il y a en France un certain nombre de discussions dans les différents différents territoires en disant mais c'est le chemin traditionnel ou c'est pas le chemin traditionnel. Je crois que ces discussions sont très secondaires parce que le pèlerin, lui qui marche, j'en ai fait l'expérience personnellement, il suit le balisage, on n'est pas à se perdre, mais s'il voit un détour ou au contraire un raccourci, il n'est pas prisonnier du balisage.
Donc le balisage, vous me dites, c'est une coquille Saint-Jacques jaune sur un fond bleu, mais dans les villes, par exemple au pied des cathédrales, on voit un autre type de balisage.
Alors, on peut en voir beaucoup, beaucoup. Il y a un certain nombre de villes où le balisage est matérialisé par des coquilles Saint-Jacques en bronze qui sont fixées dans les pavages. Mais ça, ce sont des initiatives locales. Le balisage officiel, c'est fond bleu clair avec une coquille Saint-Jacques stylisée, c'est-à-dire uniquement marquée sous la forme de rayonnage.
Donc ça, c'est en France. Et en Espagne, ça continue de la même façon ou ça change?
Alors, en Espagne, c'est différent. En Espagne, ce sont des flèches jaunes peintes à la hâte avec de la peinture jaune. Il paraît, m'a-t-on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très possible, qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Espagnols ont choisi de baliser avec les moyens du bord. Donc au début, ils ont fait ça avec des grands coups de pinceau et de peinture jaune, et finalement, ce balisage est resté le balisage officiel. Le balisage existe partout. À titre personnel, j'ai rejoint le chemin. Là, j'avais le balisage officiel, mais auparavant, j'étais hors le chemin, puisque j'étais en amont du chemin traditionnel. J'avais 250 km quand même à faire, et partout, j'ai trouvé du balisage, et ces balisages sont effectués par des volontaires des associations jacquaires locales.
On compte plus de 80 associations jacquaires en France. Anthony Grouard, ancien responsable de la délégation 44 de l'association bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, nous explique le rôle de ces associations.
Une association jacquaire ou une association pèlerine, c'est vraiment une grande dimension. Le but premier, c'est d'aider le pèlerin au départ. Donc comment on l'aide? En l'informant, donc en créant des permanences, des réunions publiques, où là, la personne intéressée va prendre la dimension de ce qu'est un pèlerinage, en parlant bien sûr de l'hébergement. En gros, c'est comment je me dirige, par où je vais, où est-ce que je dors et où est-ce que je mange, et comment je m'équipe aussi. C'est très simpliste, mais cependant, c'est essentiel pour la réussite. Donc, dans les permanences, on donne une idée de comment on bâtit un sac à dos, ce qu'on va prendre, ce qu'on va pas prendre. Pas trop chargé, parce que l'ennemi du marcheur, c'est toujours le poids. Voilà. On peut donner des idées de comment s'équiper, se chausser notamment, parce que ça, c'est important. Hein. Les pieds, c'est là où tout repose. C'est un des éléments majeurs moteurs du pèlerin. Et puis, parler de l'hébergement. Nous, dans l'ouest de la France, c'est vrai ici en Loire-Atlantique, c'est vrai en région Bretagne. Et puis, c'est vrai aussi en Vendée. Notre réseau d'hébergement est constitué de beaucoup de familles. C'est-à-dire que nous, par exemple, moi, j'accueille à Nantes-Centre les pèlerins. Et donc, c'est pas facile pour les personnes de se dire « je vais appeler quelqu'un que je ne connais pas en lui disant « est-ce que je peux venir dormir chez toi demain soir ?» Et ça, faut avoir un peu de pédagogie et dire aux gens « non, mais les gens ont l'habitude de recevoir ce coup de téléphone ». Et donc là, il faut déjà faire tomber un peu ces barrières de difficulté à converser avec les gens, à demander l'hospitalité justement.
En parallèle, je vous conseille aussi de vous rapprocher de l'association Web Compostela. Daniel Rago, qui en est le président, nous en donne les missions principales.
Alors Web Compostela est une association qui s'est fondée il y a 20 ans, on fête les 20 ans cette année, une libre association de laïcs qui, tous ayant été marqués par leur propre pèlerinage à Compostelle, a pensé qu'il était bon d'avoir un site internet, c'est comme ça que ça a commencé, pour alimenter la soif spirituelle du pèlerin. Quand je dis pèlerin, je le prends dans le sens large du terme, parce que la très grosse majorité partent marcheurs pour différentes motivations, mais en fait, le pèlerinage, il se forme au fur et à mesure, et c'est à l'arrivée à Compostelle qu'on constate que ça a été un pèlerinage très souvent. Donc cette association-là s'est montée, a monté un site qui est toujours existant, webcompostela.com, qui essaye d'apporter quelques éclairages chrétiens sur le chemin. Donc les différentes missions de Web Compostela sont le gros morceau, l'accueil francophone, le site, l'édition des haltes chrétiennes en France, et en partie sur le Camino Frances, et puis le lien entre les évêques de France et les pèlerinages du Compostela.
On peut donc partir depuis n'importe où, le pas de sa porte ou l'extrême pointe de la Bretagne. Justement, les départs depuis l'ouest de la France sont courants. Plus de 1600 km de chemin ont été mis en valeur en Bretagne historique. La ville de Nantes est l'un des points nodales des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle de l'Ouest. Anthony Grouard, qui est actuellement le président des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, nous l'explique.
La Loire-Atlantique est terre de passage de pèlerins. Je pense qu'il faut, pour voir un peu la dimension de ce qu'étaient les chemins de Saint-Jacques ou les autres, hein, ou les autres chemins de pèlerinage au Moyen-Âge, c'est-à-dire que les gens ne prenaient pas un bus pour aller au Puy-en-Velay, ils partaient de chez eux. Et donc forcément, la Bretagne et l'ouest de la France faisaient partie de ces grands lieux de départ. On rejoignait des grandes villes pour se mêler aux autres pèlerins qui partaient de chez eux aussi, mais quelquefois de beaucoup plus au nord, pour marcher ensemble et aussi ce qui crée une forme de sécurité parce qu'il y a 1000 ans en arrière, c'était pas trop sûr, c'était pas les chemins d'aujourd'hui.
Concrètement, comment s'y prendre pour partir quand on habite la région ?
C'est assez simple, on prend la carte d'où on est, on habite et forcément on va pas être trop loin des chemins qui existent, du chemin principal donc qui va passer par Nantes. Alors généralement on donne des conseils aux gens en leur disant bah, allez sur les sites, voir les cartes des tracés et puis à partir de chez vous vous allez assez simplement rejoindre ces axes, ces deux axes, celui qui arrive de l'ouest de la Bretagne qui arrive à Saint-Nicolas-de-Redon et puis celui qui arrive du Mont-Saint-Michel qui pénètre en Loire-Atlantique à Belley-sur-Vilaine. Donc là on a déjà deux axes majeurs et puis cet axe de la côte qu'on a créé depuis peu de temps en donnant la possibilité aux gens en arrivant à Nantes ou au départ de Nantes de descendre la Loire pour aller jusqu'à Saint-Brévin et puis après suivre le littoral qui va les emmener très loin jusqu'en Galice.
Vous l'avez compris, les chemins sont nombreux à travers la Loire-Atlantique, la voie de la pointe Saint-Mathieu, la voie de Lochierec, la voie de l'abbaye de Beauport.
Et ces trois chemins-là vont faire jonction avec le quatrième, celui qui arrive, la voie des capitales, qui arrive à Blain, pour ne former plus qu'un chemin qui va descendre après Blain par Nord-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle, Nantes, Vertoux, bien sûr. Et donc après, le chemin va continuer dans le vignoble en passant par Saint-Fiacre-sur-Maine, Monnières, et il arrive enfin à Clisson. Il va quitter Clisson toujours plein sud vers Montaigu et puis descendre tranquillement vers Saint-Jean-d'Angély où il va faire jonction avec la grande voie de Tours, l'une des quatre grandes voies compostellanes de France.
Dernière précision, à Nantes, il y a un nouveau départ et c'est l'association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique qui en est à l'origine. Cet axe vous permet de longer la côte atlantique depuis Saint-Brévin-les-Pins ou depuis Nantes.
Du coin de la cathédrale, qui va descendre déjà à Rive-Nord jusqu'à Couëron. Alors on l'a fait descendre par la Loire à vélo, par Couëron, pour prendre le bac au lieu-dit le Paradis, juste après Couëron. Et pour franchir la Loire, pour arriver à la ville du Pèlerin, qui tient son nom vraiment du pèlerinage de Saint-Jacques, puisque les gens passaient ici la Loire pour après partir vers Saint-Jacques en Galice.
Mais on peut aussi partir, comme beaucoup le font, depuis le chemin du Puy-en-Velay, un point de départ très fréquent, comme nous le confirme Anthony Grouard.
C'est la voie la plus fréquentée, c'est un beau chemin. On parle Compostelle, on part tout de suite le Puy-en-Velay.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut imaginer qu'il y a vraiment une communication qui a été faite depuis 30 ou 40 ans autour de ce chemin qui a été remis en lumière, on va dire. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde sur ce chemin avec des réseaux d'hébergement très complets, avec beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Daniel Rago nous rappelle à cette occasion l'histoire autour du chemin du Puy-en-Velay, une voie ouverte par...
Ouverte par l'évêque Godescalque en 1951, si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas sûr de la date. En fait, c'est une légende parce qu'elle avait dû passer par le couloir du Rhône. Les grands chemins actuellement, 80% c'est départ du Puy. Ensuite, on a le départ de Arles, la voie du Sud, Arles-le-Saint-Port. On a des variantes avec le chemin du Piémont, la voie de Tours, qui s'est constituée très rapidement aussi. Il y avait un lien très fort entre la spiritualité de Saint-Martin et la spiritualité de Compostelle. Le chemin qui part de Paris, et l'un des grands chemins aussi, le chemin qui part de Vézelay, les reliques d'Iton, de Marie-Madeleine.
La plupart de ces chemins se rejoignent ensuite en Espagne, dans une ville du nom de Puente la Reina. C'est au pied des Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne, que commence le Camino Frances, un axe majeur, nous dit Anthony Grouard.
Oui, clairement le Camino Frances est le chemin le plus fréquenté de tous les axes jacquaires en Espagne. Ça reste quand même ce Camino Frances, l'axe majeur des pèlerins. Moi, si je peux me permettre de conseiller aux futurs pèlerins qui hésitent, moi j'aurais tendance à leur dire, prenez ce Camino Frances parce que c'est vraiment là que ça se passe. Quoi.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est le chemin qui est fréquenté. Effectivement, il y a du monde, mais on passe par des villes majeures qui sont Burgos, León, Astorga, Ponferrada, et il y règne un esprit très très particulier qui n'est pas trop définissable, je ne sais pas, une alchimie. Il se passe quelque chose sur ce chemin, c'est un chemin de rencontre, hein, comme tous les autres chemins de Saint-Jacques, bien sûr, mais il s'y passe vraiment des choses particulières. On aime fouler ce chemin.
En Espagne, il existe encore d'autres chemins le chemin du Nord, le Camino Primitivo ou encore le chemin des Anglais, mais tous mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pour se renseigner et trouver le bon chemin, celui qui vous correspond et que vous prendrez, il est fortement conseillé de se rapprocher d'une association Jacquaire, il y en a pour toutes les régions. Merci à Daniel Rago et Anthony Grouard, vous les avez entendus tous les deux lors de ce deuxième épisode de Témoins du chemin. Le générique a été réalisé par Alex Dirks, alias Dixie. Le prochain épisode de Témoins du chemin vous ouvrira les portes des différents hébergements sur le chemin et vous permettra aussi de mieux connaître ceux qui marchent sur les chemins de Compostelle. Alors, comme disent les pèlerins, Outreya et Souceya.